BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est BFM Patrimoine qui ouvre ses portes. Nous sommes le 29 novembre et la Bourse de Paris nous est ouverte, expliquée, distillée pour cette première heure de cotation par Antoine Larigauderie. Bonjour Antoine, qu'est-ce qu'on se dit sur les
Bonjour
salles
Cédric.
Dans les salles de marché ce matin ?
Alors que ça va mieux, la tendance est toujours un petit peu hésitante, hein, faut dire, mais hier on était un petit peu chamboulé par l'effet qu'avait l'agitation sociale en Chine, très forte, très intense, très inattendue, sur les indices boursiers chinois qui ont eu tendance à décrocher, à être très volatiles, et on a vu que les places européennes étaient quand même orientées plutôt à la baisse. En avant-marché, on était globalement à l'équilibre, parce que faut dire que Wall Street a quand même bien accusé le coup hier soir, avec une clôture en baisse marquée, une petite hausse de la volatilité. Tout ça, ça constitue quand même une prime de risques supplémentaires à prendre en compte sur les marchés. Et à l'ouverture, finalement, il a fallu prendre en compte le fait que les indices chinois à court terme, eux, se sont très très bien comportés. On a eu un rebond très très net, hein, du côté de la bourse de Hong Kong, plus de 5%, plus de 2% de hausse pour la bourse de Shanghai, et donc des marchés européens qui avaient de quoi grignoter encore quelques points. Alors l'avance diminue d'heure en heure, on a quand même un CAC 40 qui avance de 0,12%, on est à 6673 points. Petite hausse pour l'Eurostock 50 à plus 0,1%. Vous voyez, le DAX à Francfort est à l'équilibre. Tout cela est un petit peu encore volatile. À noter que ce sont les secteurs les plus concernés par la conjoncture en Chine qui signent les plus fortes hausses, notamment le luxe, Kering qui gagne 1,5% à 553,30€. On a LVMH plus 0,6% à 702,90€. Tous les groupes de vins et spiritueux, que ce soit Pernod Ricard qui gagne 0,6% à 187,55€, ou Rémy Cointreau, leader du SBF 120 et qui gagne 2,5%. On est à 165€ sur le titre Rémy Cointreau. Et puis, à noter aussi les matières premières. Alors, ArcelorMittal qui gagne 1,17% à 25,49€. Total Energy qui rebondit dans le siège des cours du brut. C'est aussi un des chiffres importants de la matinée. Le cours du brut qui avait flanché hier à cause de la Chine et qui l'a rebondi lui aussi, tout comme les indices chinois, à 85,81$ pour le baril de Brent de mer du Nord et du côté des 79 maintenant pour le brut léger américain. Donc, tous ces titres stimulent la tendance. À noter quelques baisses, quelques titres qui manquent un petit peu à l'appel, notamment la techno. Capgemini moins 1,1% à 176,10€ sous Téléperformance, moins 0,9% à 213,60€. La plus forte baisse, elle est pour Eurofin Scientifique sur le CAC 40 qui perd 1,5% à 67,26€. Le CAC donc en petite hausse, plus 0,09%, 6671 points. Et l'euro remonte à nouveau vers 1,04. On est à 1,0381. Souvenez-vous, on a fait un plus haut à 1,05 hier en séance.
Place à l'info à présent avec Nathan Cocampo.
BFM Business, l'info éco.
Les restaurateurs passeront-ils les fêtes de fin d'année face à l'inflation ? Beaucoup de chefs d'entreprise éprouvent des difficultés pour régler la facture d'énergie. Thierry Marx, le nouveau président de l'UMI, était l'invité de Good Morning Business ce matin. Il redoute surtout la pénurie de candidats. La question des salaires n'est plus le seul enjeu dans les difficultés de recrutement.
Aujourd'hui, vous ne trouvez plus de logements saisonniers. Aujourd'hui, on a des confrères et des consoeurs qui s'organisent pour construire leur propre logement et demander une fiscalité par rapport à cela, parce qu'ils n'arrivent plus à se loger. Quand vous avez 120 jours de Airbnb dans des zones touristiques, bien, il est bien évident que vous ne trouvez plus à loger votre personnel. Donc, il y a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes de logement qui, effectivement, font baisser l'attractivité de nos métiers et pas simplement la rémunération.
Le Qatar annonce un contrat d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié avec l'Allemagne. Un contrat sur 15 ans en pleine crise mondiale de l'énergie. Le pays du Golfe va fournir jusqu'à 2 millions de tonnes de GNL par an au terminal gazier en cours de construction dans le nord de l'Allemagne à partir de 2026. EDF annonce avoir conclu avec 6 banques des financements bancaires supplémentaires pour un montant de 2,2 milliards d'euros. EDF qui connaît des difficultés financières en raison notamment de la limitation des tarifs de l'électricité et des problèmes de production de ces centrales nucléaires. Et justement, la centrale à charbon de Saint-Avold a redémarré en Moselle. Décision du gouvernement avec le retour des températures hivernales dans le pays. L'une des dernières centrales du parc français devait normalement fermer définitivement ses portes en mars dernier. Mais avec la crise énergétique, le gouvernement change de stratégie. Troisième perte annuelle d'affilée pour EasyJet. Des résultats plombés par les pertes perturbation de ses activités avant l'été. Perte de 169 millions de livres pour l'exercice 2021-2022 achevé fin septembre. Un montant tout de même divisé par 5 par rapport à l'année dernière. Et puis Emmanuel Macron se rend ce soir à Washington pour sa deuxième visite d'État. Il espère en profiter pour parler de la guerre en Ukraine et hausser le ton face au protectionnisme américain. Du côté des États-Unis, on fera tout pour éviter la moindre friction pour la première visite d'État organisée par Joe Biden. Nos rendez-vous du jour sur BFM Business ce soir, Esther Duflo, prix Nobel d'économie, sera dans la grande interview d'Edwige Chevrillon. C'est ce soir à 19h30.
Merci beaucoup Nathan, on se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité éco. Et nous tout de suite, ce sont vos placements qui nous intéressent en commençant par le Monde Action.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipro.
Grâce à Arnaud Cadard qui nous attend chez Flournoy Ferry. Bonjour Arnaud.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous proposez de jeter un œil sur Rothschild et compagnie. D'abord, on rappelle un peu qui est Rothschild et compagnie.
Oui, bon, c'est un nom qui est assez célèbre. Hein. C'est une légende de la finance européenne. C'est un peu discret en bourse, mais c'est efficace. Mais c'est la famille de David hein, qui a laissé sa place à Alexandre de Rothschild récemment. C'est cette branche de la famille Rothschild.
Alors, pourquoi votre choix sur Rothschild ce matin?
Écoutez, c'est le genre de titre que l'on apprécie chez Flournoy Ferry. Alors déjà, c'est une entreprise évidemment familiale, on vient de le dire. La famille de David de Rothschild contrôle le groupe avec 55% du capital. Elle s'est même renforcée au cours des trois dernières années au capital. C'est Alexandre aujourd'hui qui est le représentant de la nouvelle génération, qui a succédé à son père David et qui en est le dirigeant exécutif. Et il est entouré d'une équipe dirigeante de très grande qualité, notamment François Perrol, qui est revenu dans la maison après avoir dirigé BPCE. Bon, Rothschild, c'est environ 3 milliards d'euros de revenus annuels, hein, autour de trois grands métiers. D'abord, le conseil financier qui intègre le célèbre conseil en fusion-acquisition. Ça, c'est environ 60% des revenus. Et puis, il y a deux autres métiers autour de la gestion d'actifs. La banque privée d'abord, qui représente un quart des revenus. Et puis, le métier le plus récent, c'est le capital investissement, qui représente le solde à peu près 15% des revenus, mais qui monte en puissance assez fortement au cours des dernières années. Bon, c'est donc une banque qui n'en est pas réellement une, hein. Elle n'a pas d'activité de prêt ou quasiment, enfin c'est très marginal. Donc c'est pas réellement un vecteur qui va profiter du contexte de remontée des taux. En revanche, l'activité et les résultats devraient rester très bien orientés au second semestre de l'exercice 2022. Grâce à la bonne exécution du carnet hein, dans le conseil financier, il y a eu énormément d'opérations de fusion-acquisition qui ont été conseillé par le groupe et le groupe facture les services encore à ce stade. Et puis, il y a une très bonne contribution aussi du capital investissement qui enregistre en ce moment des plus-values importantes. Et le groupe étant fortement capitalisé, la bonne profitabilité sur l'ensemble de l'année et sur ce second semestre devrait l'encourager à verser un dividende exceptionnel encore début 2023, ce qui devrait offrir un rendement probablement supérieur à 6%. Donc c'est des rendements qui sont un petit peu inférieurs à ce que l'on voit sur les autres banques, mais encore une fois, c'est pas une banque qui porte du risque, c'est uniquement une banque conseil, on va dire. Le point d'attention en 2023, ça va être quand même le ralentissement du marché des fusions-acquisitions, hein, probablement de l'ordre de 30%, ce qui va amener une petite baisse des résultats en 2023, mais clairement Rothschild a la capacité d'absorber ce choc. Bon, d'abord parce qu'il y a dans le conseil financier d'autres métiers que le conseil en fusion-acquisition et qui vont représenter aussi une capacité d'absorption de ce choc. Et puis ensuite, on a des rémunérations qui sont quand même pas mal variables et fonction de l'activité. Et puis, enfin, les autres métiers aussi continuent de progresser dans le mix et offrent une certaine régularité.
Voilà donc, ouais. Dites-nous, allez-y.
Ce que l'on apprécie en quelques mots, hein, c'est que certes 2023 c'est un peu moins profitable, hein, mais le groupe est surcapitalisé et va offrir une séquence de dividendes qui va être assez solide et qui va permettre un petit peu de patienter avant une remontée des résultats en 2024, et que les positions dans le conseil financier, dans le MNE notamment, Rothschild est la dernière banque européenne à être présente dans le top 10 mondial dans le conseil en fusion-acquisition, et ce sont des positions stratégiques qui sont extrêmement fortes et extrêmement porteuses.
Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de la Valo, etc.
Ben, la valorisation n'est pas très chère, hein, puisque c'est un titre qui se paye seulement 5 fois le résultat. Alors, c'est vrai que dans l'univers bancaire, on est habitué à avoir des multiples relativement faibles. Encore une fois, sur la force du nom, des fonds de commerce exceptionnels et de l'investissement à long terme dans les équipes, dans les ressources humaines et même dans le métier de la gestion d'actifs qui est plus résilient et dans le métier du capital investissement qui se développe vite. Nous, on pense que effectivement, ce sont des multiples qui sont très peu chers. Et en plus, on a vraiment une politique de retour à l'actionnaire qui est assez importante. Donc, on accueille plutôt favorablement ce genre de dossier chez Florent Ferry.
Voilà donc quelques idées. Quand on regarde un petit peu le consensus des analystes, ils ont une recommandation d'achat et un objectif de cours de 45,50 € pour un titre qui, en ce moment, cote 36,95 € en repli de 0,27% ce matin, dans un marché qui, lui, fait quasiment du surplace, hein, moins 0,03%, 6 663 points, alors qu'on était dans le vert depuis le début de la séance. On va voir d'ici une vingtaine de minutes ce qu'en disent nos traders. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud Cadart depuis Flournoy-Ferry.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Irina Topasseri nous attend chez AXA IM. Bonjour Irina.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous pour évoquer ce matin la confiance des consommateurs. C'est important ces périodes d'inflation. Confiance des consommateurs de part et d'autre de l'Atlantique d'ailleurs, puisque le hasard du calendrier nous donne aujourd'hui deux indicateurs qui vont émailler la journée. On commence par l'Europe d'abord.
Allons-y. Donc effectivement, en Europe, c'est en fait l'enquête de confiance publiée par la Commission européenne. Donc ça, c'est un indicateur du climat des affaires. Ça pose des questions à 5 secteurs business, entreprise, et puis aux consommateurs. C'est un chiffrage d'un indicateur de sentiment qui a une moyenne de long terme de 100. Donc en gros, si on est au-dessus de 100, on est au-dessus de la moyenne de long terme. Si on est en dessous, on est en dessous, donc où on est d'ailleurs aujourd'hui en octobre. 92,5, c'était le dernier indicateur de la confiance en zone euro. Ce résultat qui n'est pas bon vient essentiellement d'un pessimisme excessif des ménages en fait en zone euro. Ce niveau de l'indicateur de la confiance des ménages, il est à 3,5 écart type en dessous de sa moyenne, alors que si vous regardez du côté des entreprises, la confiance des entreprises, elle est même supérieure à sa moyenne dans les secteurs des services, les secteurs manufacturiers et même dans le commerce de détail. Donc en novembre, nous avons déjà eu la confiance des ménages, elle s'est ressaisie, elle est revenue au niveau de juin, enfin, ça reste quand même extrêmement bas. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un rebond dans les prochains mois, mais pas non plus une détérioration marquée parce qu'on est déjà à des niveaux très faibles. Et puis, il faut dire que les ménages ont une sorte de résilience aujourd'hui. On voit qu'ils ont accumulé une épargne. L'accélération des salaires est en train de se passer actuellement. Et puis, on a quand même toutes ces mesures de soutien à peu près partout en Europe qui devraient soutenir un peu. Donc, un léger mieux en Europe sur la confiance, l'indicateur de confiance du climat des affaires dans son ensemble.
Et on découvrira tout ça à 11h. Et puis dans l'après-midi, ce sera entre guillemets la même statistique, mais aux États-Unis. Et là, la tonalité devrait être un petit peu moins enchanteuse.
Oui, là, c'est un petit peu moins bien. Alors là, vous avez en publication aujourd'hui, c'est le Conference Board qui publiera le résultat de son enquête pour le mois de novembre. Vous savez, il y a deux indicateurs aux États-Unis concernant la confiance des ménages. Un, c'est le Conference Board qu'on aura aujourd'hui, et puis on a l'Université de Michigan. Donc, deux choses différentes. On peut venir un peu sur les différences. Il faut dire que l'Université de Michigan, l'indicateur du sentiment des ménages, est à des niveaux extrêmement faibles. Il est aujourd'hui plus bas que ses plus bas du point bas de la pandémie. Et donc, en général, il est publié en amont et il donne un peu le là sur la direction du Conference Board qui, lui, se situe pas du tout à des niveaux aussi déprimés. Mais quand même, ça indique une sorte de détérioration à s'attendre pour le mois de novembre. Il faut dire que les prix d'énergie ont monté en octobre et début de novembre. Et puis, il faut dire qu'au moment où se mène cette enquête, nous étions en début novembre dans la situation politique des midterms. Donc ça, généralement, ça pèse un petit peu sur la confiance des ménages. Donc je pense qu'on aura un petit peu une enquête un peu moins bonne pour le Conference Board. Il faut dire que ce qui va nous intéresser au-delà de l'indicateur général, c'est la grande différence, je pense, entre ces deux enquêtes. C'est pas tant que ça le niveau qui va nous intéresser, c'est le point focal. Je pense que le Conference Board est beaucoup plus apte à nous donner un indicateur de l'évolution du marché de l'emploi, alors que le University of Michigan donne plutôt une idée de l'évolution du revenu disponible des ménages. Et donc, effectivement, le revenu disponible a été en berne avec l'inflation, etc. Alors que là, ce qui va nous intéresser, c'est l'emploi. Et il y a deux indicateurs dont le différentiel donne une très bonne corrélation historique sur, avec le taux de chômage américain. C'est, y a-t-il plein de postes à pourvoir ou y a-t-il beaucoup de postes difficiles à avoir? Et la différence entre les deux donne beaucoup, donne une belle estimation du taux de chômage américain qui va être d'ailleurs publié vendredi et dont tout le monde va regarder ensemble avec la croissance des salaires, avec le rapport de l'emploi américain qui sera publié vendredi pour le mois de novembre.
Irina Topasseri-Aksayem ce matin avec nous. Merci beaucoup Irina, bonne semaine sur ce marché. Et effectivement, c'est maintenant l'emploi américain. Ce sera à 16h, hein, cet indice de confiance des consommateurs. Et puis ensuite, on surveillera tout au long de la semaine les statistiques de l'emploi. Vous savez que c'est toujours une fusée à plusieurs étages qui se terminera vendredi par les non-farm payrolls, comme on dit en bon français dans le texte. Le marché parisien, lui, est beaucoup plus hésitant qu'il ne l'était en début de séance. Moins 0,03%, 6663 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Mike Cardoroy.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane.
Bonjour Cédric, bonjour
Marie. La maison de l'investisseur. Et on va se mélanger pour une rubrique que l'on aurait pu appeler Passion Passoire.
Allons-y.
Stéphane. Alors d'abord, ces passoires thermiques dont on parle sans arrêt, on parle bien sûr de cette fameuse classification, de ces F et de ces G. C'est quoi? C'est une bombe sociale parce qu'on va sortir du parc bon nombre de logements ou c'est une opportunité de placement pour ceux qui auraient envie ou qui seraient à la recherche de bonnes affaires?
Eh ben, ça pourrait devenir une opportunité, mais en l'état, j'ai bien peur que ça commence effectivement par être une bombe sociale, tout simplement parce que, alors on le sait, il y a eu plusieurs interventions, Marie la semaine dernière, les promoteurs, le neuf est à la peine. Le neuf est franchement à la peine. On fait une très mauvaise année sur le neuf aujourd'hui, enfin sur 2022. C'est de l'ordre de moins 30%, avec des capacités d'emprunt en baisse, les investisseurs empêchés par le HCSF. Et en 2023, ça va être encore pire, puisqu'effectivement, les prix vont continuer à augmenter, avec l'inflation des matériaux, la RE2020, etc. Les taux qui augmentent. Pour la première fois depuis 20 ans, on voit des programmes sur lesquels, qui ont été vendus, pas encore actés, mais réservés, qui ne sortent pas, où les promoteurs nous disent « Oui, mais là, les prix d'il y a un an, on ne sait plus faire. » Donc des programmes qui sont commercialisés et qui s'arrêtent, qui ne sortent pas, c'est du jamais vu. Les primo-accédants qui sont quasiment exclus. Et le Pinel avec moins d'avantages en 2023. Donc ça va être encore pire sur le neuf, sur 2023. Mais bon, déjà, ce serait grave, mais dans le même temps, on va sortir des centaines de milliers de logements du parc, avec la loi climat et notamment les passoires thermiques. Par exemple, juste un exemple, tous les dossiers que j'ai vu passer ces derniers mois, de derniers étages des immeubles haussmanniens et art déco, tous les immeubles avec des toits en zinc, tous les derniers étages que j'ai vu passer, moi, sont en G-. C'est-à-dire qu'ils sont à plus de 500 kWh par an, par mètre carré par an. Donc, c'est des dizaines de milliers de logements qui vont être sortis du parc en France. Là, dès le 1er janvier.
Le 1er janvier, parce que les pires G, effectivement, ouais, c'est dès l'année prochaine.
Tout à fait. Donc, c'est effectivement énorme. Et c'est comme, pour faire un parallèle, vous savez que les voitures thermiques vont être interdites, mais bon, il y a des voitures électriques. Mais là, pour le logement, c'est comme si...
Qu'est-ce que vous dites? Vous dites finalement, on fait un saut dans le vide?
Non, mais c'est comme si on interdisait les voitures thermiques sans faire de voitures électriques. C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'auraient plus de voitures.
Ouais, c'est ça.
Et donc là, ça va être ça pour le logement. C'est-à-dire qu'on construit de moins en moins et on va exclure des centaines de milliers de logements du parc dès cette année et puis à terme, des millions de logements. Donc là, pas besoin d'une pensée complexe pour se dire que plus de neuf, beaucoup moins de neuf et de l'ancien, effectivement, qui va être exclu du parc, il y a un bug majeur. Donc là, on va quand même vers des temps extrêmement compliqués.
Bon.
Donc, je suis quand même persuadé, parce que on peut quand même pas avancer comme ça dans n'importe quoi. Ça va commencer, ça va finir par se voir. Donc moi,
mais il y a quand même, enfin Stéphane, ouais, je comprends votre analogie avec l'auto, etc. Mais presque j'ai envie de dire comme l'auto.
Ouais.
Il y a des aides.
Oui. Oui, oui, il y a des aides, mais elles sont pas suffisantes. Elles sont loin d'être suffisantes. Vous savez qu'il y a 37% des propriétaires bailleurs aujourd'hui sont des retraités. Donc ils n'auront pas les moyens ni d'emprunter, ni de mettre 30, 40, 50 000 euros dans une rénovation. Pas pour toucher plus, mais pour toucher la même chose. Ce qui va représenter la plupart du temps 3, 4 ans de loyer pour des bailleurs qui, à plus de 25%, ont 70 ans. Il faudra, moi j'en suis persuadé, ce qu'on va plus mettre par exemple sur le Pinel, il faudra que ça aille vers du effectivement des aides plus importantes, notamment MaPrimeRénov, etc. Et puis également plus simple, parce que MaPrimeRénov, j'ai dû abattre un arbre pour vous amener le
pour
dossier.
Pour ceux qui sont à la télé, ouais, voilà. Stéphane a une petite pile de feuilles.
Oui, alors Frédéric, il est arrivé en studio en nous disant « j'ai ramené MaPrimeRénov ouais. ».
Donc ça, c'est un résumé des aides. Prenez une semaine sur vos RTT si vous voulez le lire et comprendre quelque chose. Moi, professionnel de l'immobilier, j'ai fini par comprendre en m'y penchant vraiment pendant des heures. Mais le garagiste de Melun, je vous le dis, il comprend rien. C'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe.
Remarquez, quand il nous explique pourquoi il faut changer la courroie, la révision, nous non plus, on comprend rien.
Oui, c'est clair. Alors, là, c'est la petite vengeance. Mais quand même, les aides, ça varie suivant votre région, vos revenus, ça c'est à peu près normal, le nombre d'enfants,
le type de travaux,
et les équipements. Et alors là, on touche au sublime. Par exemple, vous mettez un poêle à bois. Ben, si c'est des granulés ou des bûches, vous voyez, les bûches, c'est pas la même aide.
Pensez-vous.
Alors, encore plus fort, accrochez-vous bien. Pour les toitures des immeubles en Guyane et en Martinique, si vous mettez du bardage ventilé ou de la surtoiture ventilée, c'est pas la même aide. Ouais, vous voyez un peu le type de précision. Donc effectivement, il faudra faire deux choses, je pense vraiment. Simplifier d'abord, et puis augmenter les aides. Sinon, ça ne se fera pas. On ne pourra jamais tenir les délais. MaPrimeRénov aujourd'hui, c'est quoi? C'est de l'effet d'aubaine. C'est-à-dire que votre chaudière est morte. Bon, ben, faut la changer. Ben, vous demandez MaPrimeRénov. Enfin, vous prenez une semaine pour comprendre le truc.
Il y a des conseillers maintenant pour vous aider, non?
Oui, il y a des conseillers, mais ils sont en formation actuellement pour devenir des spécialistes du bardage ventilé. Parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Non, mais effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça coûte extrêmement cher. Mais la plupart du temps, c'est des petites aides. C'est de l'ordre de 3000 euros. Donc, c'est de l'effet d'aubaine. Parce que votre chaudière qui était morte, vous alliez la changer de toute façon. Donc là, vous demander effectivement MaPrimeRénov.
Non, et puis surtout, on a vu les stats, alors peut-être que ça a changé depuis, mais on avait vu les stats de l'année dernière où on voyait que c'était essentiellement ce qu'on appelle les monogestes et donc pas des rénovations globales, et donc ça permettra pas aux propriétaires de déplacer.
Ça montre pas le. Ouais.
Alors, rénovation globale, vous faites bien d'en parler, Marie. La rénovation globale, on a les chiffres. Il s'est fait 2500 rénovations globales, c'est-à-dire de sortie de passoires énergétiques.
D'accord. Donc, il y a 5 millions
de logements. Il y a 5 millions de passoires, donc à ce rythme-là, il faudra à peu près. Oh, 2000 ans.
Bon.
Pour 2000 ans, on a 2000 ans.
Ça va nous laisser un petit moment pour en parler.
Oui, ouais, tout à fait.
Il y a lieu qui sort un petit peu de notre causerie. C'est la montagne.
Ben oui, figurez-vous que c'est l'exemple.
Avec une étude de Hiro, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Hiro, vous savez, c'est un spécialiste justement de la rénovation énergétique qui nous aide un peu à retrouver quelle aide je peux avoir. Et donc Hiro a regardé et s'est rendu compte qu'effectivement les pires passoires, c'est-à-dire les parts avec les plus importantes parts de passoires, c'est effectivement dans les stations de ski. Alors ils ont analysé 70 stations. Et alors c'est assez dingue, c'est-à-dire que si à l'échelle nationale, on est à un petit peu moins de 17% de passoires en France, quand on regarde les stations de ski, on est à 50%. 50% de passoires.
Ouais,
et alors, attendez, c'est une moyenne, parce que quand on rentre dans le détail, vous avez des écarts de dingue. On passe de 90% de F et G sur Isola 2000 dans les Alpes du Sud à, on redescend, 15% à Bellefontaine dans le Jura. Et donc, vous voyez qu'il y a des écarts énormes.
Ah, vous voyez le Jura?
Bah alors justement pourquoi? Parce que vous savez que pour établir votre note de DPE, vous avez pas mal de choses qui rentrent en compte. Vous avez évidemment la qualité de la construction, mais pas que. Vous avez aussi l'année de construction de l'immeuble, et souvent là il s'agit d'immeubles des années 70, ouais. Et puis vous avez le climat, l'altitude, tout ça. Donc effectivement, en fait, l'essentiel des passoires, on les retrouve dans les Alpes du Sud, dans les Alpes au sens large et dans les Pyrénées. En revanche, c'est un peu mieux du côté des Vosges, du massif central et du Jura. Mais ce qui est intéressant, c'est que le patron d'Hiro, il est très clair, hein. Il dit à ce rythme-là. Surtout qu'on sait que maintenant les locations saisonnières vont être aussi concernées, puisque le ministre du Logement l'avait annoncé il y a quelques semaines sur notre antenne. À ce rythme-là, d'ici à 2028, vous avez la moitié des logements en station qui vont disparaître du marché.
Donc on va fermer
vos vacances au ski, déjà là c'est terminé quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant ce qui est en train de se produire. Donc oui, effectivement, je rejoins ce que dit Stéphane, c'est-à-dire que soit on fait rien, on attend le cataclysme, soit on se dit qu'il va y avoir plus d'aide et qu'on va modifier.
J'avoue que j'attends avec une certaine gourmandise les décrets annonçant la fermeture d'Isola 2000, de Morzine
ouais,
à Boréal,
ouais, 73%. Non, vous en avez, il y en a pas mal.
Donc on leur a collé 2 ans de Covid sans remonter mécanique, etc. Et là, on va les achever avec tout ça. Bon, cela étant dit, certains se frottent un peu les mains en se disant ces biens immobiliers, qu'ils soient à la montagne ou pas, sont des passoires, les prix vont s'effondrer.
On va avoir des décotes,
et moi, je vais pouvoir aller investir parce que j'ai les moyens de faire les travaux éventuellement, non?
Oui,
alors. Donc ça peut devenir une opportunité ou pas?
Il y a déjà des opportunités. Je dirais qu'il y a même des opportunités maintenant qu'on ne retrouvera peut-être plus. Pourquoi? Parce que je suis persuadé qu'il y aura plus d'aides et qu'elles seront plus simples. Donc à ce moment-là, il y aura peut-être un appel d'air qui vont faire venir des investisseurs ou qui vont peut-être permettre à des retraités, des propriétaires occupants de mieux rénover leur logement. Donc il y en aura peut-être moins effectivement sur le parc à la vente. Aujourd'hui le marché, soyons clairs, il est collé. À part à Paris intramuros où le taux de passoire est tellement important, mais dans les villes moyennes aujourd'hui, même dans les grandes métropoles, si vous avez un F ou un G, je vous le dis, il y a zéro appel.
D'accord. Et comment c'est on fait rappel. Pour trouver donc, justement, parce que on va pas mettre une annoce recherche passoire pour bonne action, ouais. Alors, pour bonne affaire.
Alors deux
comment
astuces.
Comment on fait pour trouver?
Deux astuces. Il y a certains sites où vous pouvez classer les annonces par DPE, par la note du DPE. Ah. Donc vous pouvez choisir uniquement les G. Et à ce moment-là, vous n'avez que des passoires. Donc là, Marie pourra s'éclater effectivement sur ces sites. Bon. Donc vous avez certains sites.
Mais ça ne nous dit pas que les gens sont pressés pour vendre.
Vous pouvez cocher. Non, enfin.
Eh mais non, mais Cédric, là, on a une idée business. Voilà. On va créer le site www.passionpassoire.fr.
Ouais, tout à fait. Donc là, vous pouvez choisir uniquement les passoires. Et alors, pour effectivement essayer d'aller plus loin, vous classez uniquement les F, les G. Et ensuite, vous les classez par ancienneté. Parce que celui qui a sa passoire à vendre depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis
lui,
etc.
Lui, on sait qu'il est...
Bon, a priori, voilà, il
à
est mûr.
À un moment, il va craquer.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, une passoire, c'est zéro appel, hein, en gros. Donc, mais il y a toujours des vendeurs qui ont besoin de vendre. Ouais. Parce que divorce, parce que vente en cascade, parce que succession, il faut qu'il soit bouclé dans les 6 mois. Donc, vous avez toujours des gens qui ont besoin de vendre. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc là, il y a vraiment des opportunités à faire. Et alors, si vous voulez avoir le top, aujourd'hui, de ce qu'on peut faire dans un marché fracassé, c'est rechercher des passoires occupées. Parce que là, vous avez la double décote, vous avez la décote passoire et la décote occupée. Et là, il y a des très très belles opportunités, dès maintenant, mais il faut, effectivement, je pense, et regarder maintenant, parce que ensuite, lorsque les aides arriveront, qu'elles seront plus importantes et plus simples, ça se vendra moins mal, donc effectivement, les très bonnes affaires, je pense qu'elles sont maintenant.
Stéphane Descartiers et puis Julie en régie nous suggèrent que lorsqu'on pourra plus skier en France, on pourra toujours aller skier à Dubaï, ce sera plus écologique
en Arabie
que nos passoires énergétiques.
Tout à fait raison.
Merci Stéphane, merci Marie. Demain on se retrouve pour le Club Immo. Et nous dans un instant, ce sont nos traders qui vont nous dire un petit peu comment lire cette tendance du jour qui se montre très hésitante après un démarrage dans le vert. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
L'heure de retrouver nos deux traders pour comprendre la séance du jour. Aujourd'hui, Romain Daubry nous attend chez Bourse Direct et Jean-Louis Cussac est en duplex avec nous depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là ce matin encore. Romain, comment s'explique finalement ce petit contre-pied? On pensait avoir bien démarré la séance. On était quelques pas au-dessus du niveau de clôture d'hier soir. Et puis finalement, nous voilà à hésiter autour de ce seuil de clôture.
Bonjour Cédric, bonjour à tous. C'est effectivement un point de rupture là sur lequel on se trouve. Après huit semaines de progression d'affilée et une semaine hyper chargée en publication macroéconomique, hein, avec PIB américain, inflation et chiffre mensuel de l'emploi, il est légitime que le marché veuille consolider un peu. C'est ce qui se met en place et Pardon. Et donc, aux États-Unis, on a sur les marchés, sur l'indice S&P notamment, une figure d'épuisement qui a été déclenchée hier. À Paris, on est en train de travailler avec la borne basse du canal haussier qui est actif depuis mi-octobre. Donc, c'est un canal de moyen terme maintenant. Et on travaille cette zone 6643-6662. On a un élément intéressant depuis 24 heures, c'est qu'hier, au cours de la séquence de baisse, petite baisse, il y a eu un peu de pression baissière pour la première fois depuis plusieurs semaines sur les futurs. Donc sur l'Eurostox, c'est léger, mais sur le CAC 40, il y a eu 4% d'augmentation du nombre de contrats futurs au cours de la séance de baisse d'hier. Ça signifie un peu de pression baissière. C'est pas très fort, mais c'est soit de la prudence de la part des opérateurs en amont de gros rendez-vous, soit un peu de pression baissière effectivement, et un peu plus de sens baissier dans le marché. Du côté des couvertures, les portefeuilles sont relativement couverts, moyennement. La volatilité reste quand même assez tendue, aux alentours de 20, donc on n'est pas dans de la complaisance toujours, mais c'est un peu plus léger que ça ne l'était au cours des semaines précédentes. Alors, malgré cela, on a un consensus qui attend extrêmement fermement la baisse, et depuis longtemps, un marché qui reste quand même hyper solide, hein, malgré les événements en Chine, malgré le discours plus agressif des membres de la Fed, on tient plutôt bien, et donc on va plutôt travailler, nous, sur des signaux et sur rupture de niveau. Alors, les niveaux en question, c'est la zone qu'on travaille en ce moment, 6643,5, 6662. Si on la rompt, et surtout en clôture, c'est la fin de la tendance haussière de court terme, de moyen terme sur le CAC 40. L'alerte baissière, elle serait plutôt donnée sous 6608, avec en mire 6454, c'est le gros niveau. On peut envisager des extensions en direction de 6390 sans problème, mais sans que ça remette en cause du tout le mouvement haussier, l'impulsion haussière qui est en place depuis le 15 octobre. Donc, en revanche, c'est moins le scénario pour l'instant, mais surpasser au-delà de 6685 en clôture, on pourrait envisager des extensions un peu plus hautes, 6775, pourquoi pas. C'est pas le thème, mais on voit clairement que l'ambiance est à la correction maintenant.
Voilà la lecture proposée par Romain Daubry, Jean-Louis Cussac. Comment appréhendez-vous un petit peu ce petit trou d'air qu'on vit après un démarrage peut-être un peu plus ferme?
Comme hier, Cédric, on se pose beaucoup de questions, mais j'achète. Voilà. Techniquement, il n'y a pas de remise en cause de l'idée d'acheter. Évidemment, il y a de nombreuses raisons pour que le marché rebaisse, retrace plus fortement, mais ils tiennent, il n'y a pas de conviction vendeuse, on le voit très clairement, la volatilité implicite est à 17,5, elle est en reprise légère, on est tombé jusqu'à 15, donc vous voyez que dès qu'il y a le moindre petit stress, elle remonte. On a bien débarré ce matin, assez fort, au-dessus des 6007. Encore une fois, des espoirs en Chine, mais il est vraiment beaucoup trop tôt pour parier sur le fait qu'il y aura, qu'on va tendre vers une politique, en tout cas, différente de la précédente, c'est-à-dire celle du zéro Covid. Et les restrictions elles sont pas remises en cause, donc ça devrait rester difficile en Chine. Donc de ce côté-là, ça refroidit un peu. Mais au-delà de ça, il n'y a rien. On voit qu'il n'y a pas de pression, que oui, le marché rebaisse, mais c'est une zone d'achat. Là, moi, ce matin, on a proposé 6653. Hier, on n'a pas acheté au plus bas, mais derrière, on est remonté au-delà des 6007. On recommence. Alors évidemment, un jour ou l'autre, ça finira peut-être par descendre, mais en attendant, quand on reste hyper technique avec un plan précis qui est le long terme, reste haussier, bon, ben on continue d'acheter. Après, on peut aussi aller chercher de la couverture sur les options, il n'y a pas de problème, puisque on est revenu de toute façon à une volatilité implicite, on va dire, acceptable, pour acheter des options. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On se pose beaucoup de questions, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un changement majeur? Non, il n'y en a pas. Christine Lagarde a à nouveau tenté de repréciser les attentes, de recaler les attentes des investisseurs en leur disant que prochaine hausse des taux directeurs, attention, de toute façon on prendra une décision avec les indications d'inflation, etc. C'est tout est possible. Donc là, évidemment, ça aide pas à prendre des vraies initiatives. Mais est-ce que pour autant il y a un changement de psychologie? Non, pour l'instant il y en a pas. On peut s'étonner des mouvements parfois violents. Alors celui d'hier sur l'euro-dollar, franchement, il m'a scotché. Et là, on est revenu sur la zone de rachat. C'est-à-dire que 1,0333 hier, on a repayé hier soir. Vous vous rendez compte? On venait de 1,05 quasiment, 1,0497. C'était une histoire de fou. On a rebondi assez fortement. On est revenu sur 1,0353. Et on a rebondi. Là, on est dessus. Bon, ça reste évidemment extrêmement étonnant. Mais c'est toujours pareil. Les marchés sont dans l'anticipation constante, très très forte. Donc, il faut pas trop se faire avoir par ces mouvements qui peuvent évidemment perturber. Bon, là, pour l'instant,
d'accord,
on est calme. Il n'y a pas beaucoup de volume. On est à 420 millions. Et on conserve, si vous voulez, la même approche que les jours précédents.
Merci à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Romain Dobré depuis Bourse Direct, qu'on retrouve tout à l'heure. Romain, ce sera à 11h30 pour suivre cette séance du jour. Le marché parisien qui donc se montre beaucoup plus hésitant qu'il ne l'était en début de séance. Moins 0,06%, 6661 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
La France rallume une centrale à charbon, celle de Saint-Avold en Moselle. C'est un signe bien concret de nos difficultés à produire de l'électricité.
Exactement. Un signe bien concret. C'est quand même une aberration écologique. Il n'y a pas un kilowattheure plus carboné que celui qui est produit du charbon. Une centrale à charbon émet 80% de CO2 en plus comparé à une centrale à gaz. Mais là, vous connaissez l'histoire du conflit entre la fin du monde et la fin du mois. Bah là, c'est le conflit entre la fin du monde et la fin de la journée. À 18h-20h, il faut lui livrer du courant et on a eu des températures particulièrement douces au début de l'automne. Si on avait eu, comme aujourd'hui, des températures correspondre aux normales de saison, Saint-Avold tournerait probablement déjà depuis 3 semaines à mois. Et en plus, les températures vont être en dessous des normales de saison dans les jours qui viennent. Donc oui, c'est la traduction bien concrète et bien réelle de nos problèmes d'approvisionnement. On importe déjà du courant là en ce moment.
Pourtant, je croyais que notre parc nucléaire reprenait du poil de la bête.
Il reprend, mais très lentement. On est à 20 réacteurs fermés sur 56. On était à 24 il y a une semaine, à 26 fermés il y a 15 jours. Donc le résultat, c'est que depuis hier, eh bien la centrale Émile Huchet de Saint-Avold, qui a tourné pendant 74 ans, qui était fermée depuis mars, a repris du service. L'objectif, c'est probablement de la laisser ouverte jusqu'à la fin du mois de mars pour alimenter quelques 600 000 foyers du Grand Est, un tiers à peu près des habitations de la région. Pour ça, il va falloir brûler 500 000 tonnes de charbon. On a encore une centrale à charbon qui n'est pas fermée. La fermeture est prévue au mieux en 2024, peut-être 2026. C'est la centrale de Cordemais qui est en Loire-Atlantique.
Est-ce que ça veut dire que le charbon va faire son grand retour en Europe?
Je pense pas qu'il va faire son grand retour. Il est clair que là, on va brûler du lignite très massivement en 2022, surtout notamment en Allemagne. Mais après, l'enjeu européen, c'est bien sûr d'aller vers une électricité de plus en plus décarbonée. La réalité, c'est que vous regardez, en 2021, la production d'électricité à partir de charbon a augmenté. Elle a augmenté pour la première fois depuis 10 ans. Pour la première fois depuis 2011. Donc dès 2021, déjà, ça a progressé. Entre 2019 et 2021, le charbon a progressé en France de 2 TWh. Et après, à côté de mars 2022, là, il vient d'y avoir l'invasion de la Russie en Ukraine, eh bien, on a observé que la production d'électricité à base de charbon dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, elle a tout simplement fait un bond de 51%. Deuxième élément, c'est que le charbon, il coûte cher malgré tout. On est à 250 $ la tonne aujourd'hui. Et les choses ne se sont pas améliorées depuis qu'est entré en vigueur l'embargo européen sur le charbon russe. Et donc, pour répondre à la question, ce n'est pas le retour du charbon, parce que le charbon, en fait, il n'est jamais parti. Il a toujours été là, il est toujours bel et bien là. Alors oui, il y a un peu de décrue depuis les années 60. Enfin, on a encore des pays comme la Pologne qui ont pris des engagements pour sortir du charbon. La Pologne a dit qu'elle sortait du charbon, mais en 2049. C'est donc pas pour tout de suite. C'est comme quand on lui dit un monde sans pétrole. Le monde sans pétrole, je pense que je le verrai pas de mon vivant. Et puis alors, et c'est vrai que le charbon, souvent, quand on regarde le bilan charbon de pas mal de pays, il a pas mal reculé. Par exemple, la France brûle 6 millions de tonnes par an, ce qui est peu, hein, par rapport à l'Allemagne, par exemple. Mais on oublie de rajouter à ce bilan carbone toute l'empreinte carbone au charbon des produits qu'on importe. Alors, chaque fois que vous importez des produits d'Asie, notamment de Chine, ils ont une empreinte carbone, et une empreinte carbone généralement bien chargée en charbon, puisque souvent ils ont été produits avec de l'électricité au charbon. Ce qui veut dire que là, nos 6 millions de tonnes de charbon brûlé en France tous les ans, si on ajoute l'empreinte carbone des produits importés, on est plutôt à 70 millions. Et enfin, pour terminer, la réalité qu'on observe aujourd'hui, c'est que tout ce que l'on prend comme décision, c'est totalement anti-COP. C'est totalement anti-écologique. Là, on vient de rouvrir la centrale de Saint-Avold. Hier, je vous ai parlé de quoi ? D'un chèque bois. également d'un chèque fuel. Il y a aussi une ristourne carburant. Ce sont que des actes qui vont à l'encontre des questions climatiques. Ça veut dire que dans l'urgence, aujourd'hui, la réalité, c'est que la solution, elle est dans la pollution.
Et comme à chaque fois, je vous renvoie sur ce petit site qui s'appelle Electricity Maps, que vous pouvez trouver très facilement et qui vous permet comme ça de suivre quasiment en temps réel la production d'électricité, la consommation. Et ben, en ce moment, 721 grammes d'émissions en Allemagne, alors que la France n'en émet que 163 grammes. Et je ne vous apprendrai rien en disant que le charbon est le plus utilisé ce matin en Allemagne. Voilà.
Évidemment.
Donc Nicolas Dose pour la polémique du jour. Et nous, on s'intéresse tout de suite au monde de vos placements.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Vous aimez la pierre que vous considérez comme une valeur refuge en termes d'investissement, mais il faut aussi avoir en tête tout ce que signifie une acquisition immobilière, notamment quand on entend la louer. Il y a un certain nombre de conséquences, notamment fiscales. On en parle avec Amélie Ziegelmeier. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Experts et Finances. On plante le décor pour commencer.
Alors c'est vrai que la fiscalité, c'est un vaste sujet et qui va dépendre de plusieurs paramètres, selon si le bien il est loué nu ou meublé pour de l'habitation ou équipé pour un local commercial. Alors comme il y a beaucoup de choses à dire, on va peut-être se concentrer sur les biens loués nus. D'accord. Où là, la fiscalité, que ce soit sur les revenus ou en cas de cession du bien, ne sera pas la même selon si vous êtes redevable d'une fiscalité à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Alors on commence par l'IR justement ?
On peut commencer par l'IR, oui. Alors au niveau des loyers, vous allez pouvoir déduire un certain nombre de charges, notamment les intérêts d'emprunt, et après ils vont être soumis au barème progressif de l'impôt. Donc votre tranche marginale d'imposition qui peut potentiellement être jusque 45% et auquel il faudra rajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Même s'il y a une partie de la CSG qui est déductible l'année suivante, ça reste une fiscalité qui est assez lourde. Et souvent, l'immobilier est acheté à crédit. Donc, les loyers remboursent une partie, voire la totalité des échéances d'emprunt. Mais souvent, il y a un effort de trésorerie qui est nécessaire pour pouvoir payer la fiscalité.
Bon, ça, c'est pour l'IR. L'impôt société, c'est moins lourd ?
Alors, la taxation des revenus est moins lourde parce que déjà le taux est de 25%, voire même 15%. Le taux réduit jusqu'à 38 120 de résultats, mais avec tout de même une nuance, puisque dans le projet de loi de finances 2023, il est peut-être question de supprimer ce taux pour les sociétés à prépondérance immobilière.
Bon.
Mais 25%, ça reste un taux faible. Et puis surtout, ce qui est intéressant à l'impôt sur les sociétés, c'est qu'on peut amortir le bien. Donc l'amortissement, ça représente à peu près 3% de la valeur de construction, donc la valeur d'acquisition hors foncier, donc entre 50 et 85% de la valeur, qui va venir en déduction des revenus payés, alors que vous ne décaissez pas cette somme. Donc la fiscalité est moindre, effectivement, à l'impôt sur les sociétés.
Bon, mais il y a que des avantages ou des inconvénients aussi ?
Alors, dans chaque investissement et dans chaque mode de détention, il y a toujours des avantages et des contraintes. À l'impôt sur les sociétés, ce sera au moment de la cession du bien, puisque déjà, on n'a pas les abattements pour durée de détention, comme à l'impôt sur le revenu. Et au niveau de prix d'acquisition, on va retenir la valeur nette comptable. Donc, c'est la valeur d'acquisition, mais qui va être minorée de tous les amortissements pratiqués.
Ah.
Donc on va avoir une plus-value qui va être plus importante et qui va être fiscalisée. Et en plus, quand on cède un bien dans une société à l'impôt sur les sociétés, l'argent est à l'intérieur de la société. Donc si vous voulez le récupérer à titre personnel, il faut payer la flat tax de 30%, voire selon les montants, la CEHR, donc la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en plus.
Est-ce qu'on ne peut pas trouver un système pour profiter du meilleur des deux mondes ? Le taux de l'IS avec les facilités de l'IR.
Au moment de la cession, vous voulez dire les facilités de l'IR ? Alors pendant longtemps, c'est vrai qu'on pratiquait le démembrement temporaire de propriété, qui permettait d'avoir ces avantages. En cas de détention, on était à l'IS et à l'IR en cas de sortie. Après, aujourd'hui, avec les évolutions législatives, c'est un montage qui est plus controversé. Donc nous, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la société en commandite simple, qui permettrait d'avoir ces avantages, mais avec un risque de redressement fiscal qui est moindre.
Bon, dites-nous en plus. Donc, société en commandite simple.
Voilà.
C'est...
ou SCS pour faire plus simple. Alors c'est vrai que c'est une forme qu'on rencontre très peu en pratique, et pourtant c'est la forme sociale certainement la plus archaïque. Elle avait été légalisée au XVIIe siècle sous Colbert, et elle trouve son origine, pour la petite histoire, dans le commerce maritime des épices, entre autres, puisqu'à l'époque on avait un armateur qui mettait à disposition un bateau, et on avait le capitaine et son équipage qui étaient chargés de mener à bien l'expédition. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait seulement un bateau sur deux qui revenait d'expédition. Donc c'était extrêmement risqué. Ce qui permettait au capitaine et son équipage, même s'ils n'avaient pas réalisé d'apport, puisque c'était l'armateur, de prélever une partie importante du bénéfice compte tenu du risque qu'ils prenaient sur leur vie. Et donc plus tard, ça a donné naissance à la société en commandite simple, où on va avoir deux catégories d'associés. Le commanditaire, donc dont le risque va être limité à l'apport, donc ce serait notre armateur, et le commandité, qui lui va s'occuper de la gestion, mais qui aura une responsabilité indéfinie et solidaire.
Ça, c'est le parallèle qu'on peut faire avec un bien immobilier.
Alors là, c'est
le fonctionnement. Le bateau, il revenait pas, mais l'immeuble, il bougera pas, lui.
Exactement. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre un certain nombre de précautions. Et ce qui est intéressant pour faire le lien avec un bien immobilier, c'est qu'on a une souplesse dans la SCS. Donc on peut prévoir, grâce au statut, une répartition qui va plus être fonction uniquement du résultat, de l'apport et de la répartition capitalistique, mais également en fonction du risque qui est pris et de la gestion. Et le deuxième avantage, c'est par rapport à la fiscalité, on va tout de suite faire le lien avec un bien immobilier, c'est que le commanditaire est redevable de l'impôt sur les sociétés et le commandité de l'impôt sur le revenu. Donc si on veut faire le lien avec notre bien immobilier, on peut imaginer un bien qui serait détenu par une société en commandite simple. Il faut impérativement que le bien soit financé à crédit, puisqu'il faut un risque. Alors certes, ce n'est pas un risque sur sa vie, mais c'est quand même un risque sur son patrimoine personnel. Et donc on peut prévoir dans les statuts que la part qui revient au commanditaire, donc celui qui a réalisé l'apport, par exemple les frais de notaire, perçoivent le résultat, donc les loyers, qui seront fiscalisés à l'IS, donc avec le système d'amortissement, et le produit de cession au commandité qui s'occupe de la gestion et qui lui est indéfiniment et solidairement responsable des dettes. Et donc il pourrait prélever le produit de cession et comme ça on serait sur la plus-value des particuliers et on arriverait à avoir le meilleur des deux mondes.
Bon, montage donc, qui peut rapporter combien ?
Alors, dans le dernier exemple de dossier qu'on a traité, l'enrichissement pour les clients était de 50 à 70% supérieur par rapport à une SCI à l'IR ou une SCI à l'IS. Et c'est vrai que nous, on a tendance à préconiser ce montage à partir d'1 million d'euros. Donc tout de suite, on est sur des gains de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc assez significatif.
Un petit peu trop beau pour être vrai, non ?
Alors, forcément fait des raccourcis, parce qu'il y a quand même des précautions à prendre, il y a des subtilités. Alors, c'est vrai que ce qui va déterminer que le montage, il est abusif ou non, ça va être les paramètres économiques, ça va être la façon dont sont rédigés les statuts. Et le mieux, c'est de faire appel à des personnes qui maîtrisent parfaitement le sujet. Mais c'est sûr que pour ceux qui remplissent toutes les conditions, aujourd'hui, c'est le mode de détention pour de l'immobilier qui est loué nu.
Société en commandite simple, révélée ce matin par Amélie Ziegelmeier. Merci Amélie. Pour experts et finances. À très bientôt. Le marché parisien, il reste pour le moment très hésitant, -0,06. On a du mal à redécoller finalement de ce seuil. On est à 6653 points.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce marché qui semble avoir même un petit peu lâché l'affaire, puisqu'on perd maintenant 0,1%, 6653 points. Du côté des principaux arbitrages ailleurs en Europe, la tendance est d'ailleurs également en train de basculer en territoire négatif, -0,07 pour l'Eurostock 50. Les principaux titres qui se distinguent du côté des baisses, on a -2,30% sur Eurofins, à 66,74, Capgemini, Worldline et Dassault Systèmes qu'on complète ce quartet perdant de l'indice. Quelques hausses tout de même, dont Airbus, Safran, Pernod et Engie. C'est Airbus qui prend la tête du CAC pour le moment à 108,32 en hausse de 0,89%. Hors indice CAC 40, on peut remarquer Arcos qui reprend 4,42%, tandis que Big Ben Interactive en perd 5,6%. Du côté des devises, l'eurodoll est 1,0359.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille à présent Mireille Wimbert. Bonjour Mireille.
Bonjour Cédric.
Journaliste indépendante que l'on retrouve régulièrement à nos côtés. Et vous allez nous parler de la préparation de la retraite. Mais avant cela, une question. Sait-on combien on percevra à la retraite et surtout, est-ce qu'on peut trouver cette information?
Alors chacun peut le savoir en allant sur le site info-retraite.fr, qui est le site public en fait. À partir de 55 ans, vous avez une estimation de ce que vous avez percevoir à la retraite. C'est l'estimation la plus précise qui existe.
Même s'il y a des erreurs entre guillemets,
oui,
parfois,
mais bon,
notamment
globalement,
sur
c'est la plus précise.
La prise en compte des enfants et autres.
Oui, mais ça on corrige. C'est la plus précise. Pourquoi? Parce que ils utilisent vos vraies données de carrière. Donc vous voyez, ça c'est pas mal. Mais c'est à partir de 55 ans seulement. Avant cet âge, page-là, vous pouvez toujours aller sur ce site. Il suffit de mettre votre numéro de sécu, vous avez tous vos relevés de carrière, etc. Et là, vous pouvez faire une simulation sur le site Marel. Sinon, en dehors de ça, si on veut savoir par grande catégorie professionnelle, on a une statistique publique, c'est le corps, conseil d'orientation des retraites, qui nous donne des chiffres. Alors, il regarde quelques catégories professionnelles seulement, donc c'est pas pour l'ensemble de la population. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'un non-cadre qui gagne environ 35 000 euros par an, lui, il aura un taux de remplacement de 70 à 75%. Un taux de remplacement, ça veut dire que sa pension de retraite sera égale à 70 à 75% de son dernier salaire. Ça, c'est pour le non-cadre. Le cadre, c'est beaucoup moins. Un cadre, par exemple, un cadre moyen qui gagne 100 000 euros par an brut, lui, il a un taux de remplacement de 50% seulement. Ça veut dire qu'à la retraite, il va toucher 50 000 et pas 100 000, voyez. Les fonctionnaires, c'est de 44% à 70% à peu près, nous dit le corps. Ça dépend du montant de leur salaire, ça dépend du montant des primes. Chez eux, c'est un peu particulier aussi. Et pour les professions libérales, le conseil d'orientation des retraites ne dit rien. Et on sait que les professions libérales qui gagnent beaucoup, enfin, celles qui gagnent beaucoup d'argent, comme toutes les professions réglementées, les notaires, les médecins, les architectes, enfin, quand ils ont des très gros salaires, là, effectivement, le taux de remplacement, il est très bas, il est inférieur à 40%. Voilà à peu près ce qu'on sait. Est-ce qu'on peut savoir ?
Est-ce qu'on peut donner ce matin quelques conseils à un couple, disons, de cadre moyen pour préparer sa retraite ?
Oui, bien sûr, un cadre moyen, on va considérer. Alors, ce qu'on a fait, je vous invite à aller voir sur le site de l'Express, parce qu'on a, j'ai piloté un numéro spécial retraite qui est sorti le 2 novembre, et vous aurez ces cas pratiques dont je vais vous parler maintenant, que j'ai réalisé avec Cyrus Conseil, vous les aurez sur le site de l'Express. Donc, ça sera beaucoup plus précis que ce que je vais vous dire, parce qu'évidemment, moi, je vais faire des grandes lignes. Donc, notre cadre, notre couple de cadre moyen. On va dire qu'ils ont un salaire moyen annuel de 90 000 euros, qu'ils sont à 15 ans de la retraite, donc ils ont 15 ans d'épargne devant eux. Et donc ceux-là, on va considérer, compte tenu de ce qu'ils perçoivent en salaire, qu'ils sont dans la tranche à 31%. Tranche d'imposition, à l'impôt sur le revenu, bien sûr. Eux, on va leur conseiller d'épargner sur de l'assurance vie de manière dynamique parce qu'ils ont 15 ans. Donc dynamique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essentiellement investir en actions. Il y a deux manières de le faire. Soit ils font tout seuls s'ils sont compétents, soit ils délèguent la gestion, ils prennent un profil dynamique, etc. Les actions sur le long terme, là on a 15 ans devant soi, on sait qu'en moyenne c'est profitable, c'est un rendement sur le long terme d'environ 7% par an. Donc ça c'est bien. Donc on fait des actions et on fait aussi des versements réguliers. Pourquoi ? Pour pas verser chaque année au plus mauvais moment. Donc on fait tous les mois, ça serait bien.
On lisse les points d'entrée.
Tous les trimestres, si on n'a pas envie de s'embêter avec ça tous les mois. Mais on lisse les points d'entrée. Ça, c'est une bonne manière de se constituer un capital pour plus tard.
Pas de PER ?
Non, pas de PER pour eux. Pourquoi ? Je vous ai dit qu'ils étaient dans la tranche à 30%, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire que ces gens-là... Le PER, quand on verse de l'argent sur son PER, l'argent qu'on verse est déductible du revenu imposable. Ça veut dire si je verse 100, je peux déduire 100 de mon revenu imposable. Ça veut dire que ces 100-là ne seront pas taxés dans ma tranche à 30%. Donc je gagne 30% de 100, je gagne 30.
30.
Voilà. Ça, c'est bien. C'est sympa. Mais le problème, c'est que ces gens-là sont dans la tranche à 30. Et ça veut dire qu'au moment de la retraite, ces mêmes 100, je vais les retirer. Et là, on va me dire, bah, tu me la payes maintenant, ta taxe dessus. Enfin, tu me payes les impôts dessus. Et la tranche à 30, elle a ça de distinctif.
Elle est très large.
Ah ouais. Ça va de 25 700 euros à 73 500 euros. Donc, ces gens-là, même si leur taux de remplacement, si leur pension, évidemment, est bien moins élevée, évidemment, que leur salaire,
ils risquent quand même de rester dans la tranche.
Donc, ça veut dire qu'ils ont économisé 30 à l'entrée, mais ils vont payer 30 à la sortie.
Ouais.
Donc, ça reste malgré tout intéressant puisque c'est un différé de placement. Mais pour eux, compte tenu de la rigidité du PER, on ne peut pas sortir d'un PER, on ne peut pas faire des retraits quand on veut.
Ouais.
On préfère l'assurance vie parce que ça va leur permettre, en cas de coup dur, effectivement, de faire des retraits. C'est beaucoup plus souple.
Vous leur recommandez quand même aussi un peu d'IMO avec un Pinel ?
Oui, c'est bien de diversifier. Le Pinel, c'est toujours bien. Pourquoi ? Pour cette catégorie de personnes-là ? Eh ben parce que c'est un effet de levier avec le crédit. Ça crée de la richesse avec le crédit. Et voilà, donc ça, c'est pas mal. Et puis, ça fait une réduction d'impôts aussi. Donc ça, c'est assez intéressant pour eux.
Est-ce qu'on ferait différemment pour un retraité, un cadre supérieur ?
Oui, un cadre supérieur. Alors lui, on va considérer... il a toujours 15 ans devant lui, on va dire. On est toujours avec un couple de 4 sup. Ils ont toujours 15 ans devant eux. Eux, évidemment, ils sont dans la tranche supérieure de l'impôt. Donc supérieure à celle 30, c'est celle à 41. ans. Ils sont dans la tranche à 41.
Et eux, ils peuvent espérer descendre une tranche au moment de la retraite.
Exactement. Et donc, ouais. Eux, ce qu'on fait, on fait de l'assurance-vie pour eux, toujours de l'assurance-vie. C'est la base de la constitution patrimoniale pour la retraite. On fait de l'assurance-vie, mais eux, on ne va pas faire dynamique sur l'assurance-vie. On va faire plutôt quelque chose d'équilibré avec du fonds en euros, de la SCPI, des profils équilibrés. Donc, quelque chose qui donne 3-4%. Et puis, eux, on va faire du PER. Pourquoi ? Parce qu'alors, eux, ils sont dans la tranche à 41. Donc, eux, c'est efficace parce qu'ils sont en 41.
Ils vont défiscaliser à 40.
Et eux, comme leur taux de remplacement, il est très faible parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, eh bien, il y a des chances qu'ils basculent dans la tranche à 30%. Donc, pour eux, c'est efficace. S'ils versent 10 000 euros chaque année sur leur PER, ça fait une économie d'impôt chaque année de 4 100 euros. 4 100 euros sur 15 ans, ça fait une économie d'impôt finalement de 61 500 euros au bout de 15 ans. C'est profitable. Donc pour eux, assurance vie plus PER.
Voilà quelques bons conseils qu'on retrouve.
Pour eux, on va leur faire de l'immobilier aussi, mais ouais. On ne va pas faire du Pinel. Pour eux, on va faire de la location meublée non professionnelle en régime réel, parce que là, ça ne sera pas soumis au revenu foncier. Donc là, c'est un autre régime, et avec l'amortissement, c'est fiscalement très intéressant. Donc pour eux aussi, on va diversifier.
Bon,
avec
et on retrouve donc tout ça dans...
Sur le site de l'Express, l'express.fr, vous regardez cas pratique, cadre, cas sup, et vous retrouvez tout ça en détail.
Mireille Wimbert, donc. On vous retrouve tout à l'heure aussi, vous répondrez aux questions des auditeurs. Dans un instant, on fait un détour sur les marchés, et puis suivra Regard Croisé. N'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur le site que vous retrouvez pour nous écouter à votre convenance.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.